Merci Tiffaine et bon week-end. Trois invités, Egerasim Louka avec Mika Gargescu qui l'expose au Centre Georges Pompidou, Serge Martin qui lui consacre un essai et Alain Berset dont la maison d'édition emprunte son titre « Héros limite » au poète.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Serge Martin, Alain Berset, Mika Gargescu, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
À tous les trois, une heure ou presque avec Egerasim Louka, poète et artiste apatride d'origine roumaine et d'expression, dirons-nous, essentiellement française, né en 1913, disparu en 1994. Sans patrie, sans état civil, sans procédé, sans manière, sans attache. Sans école, hein, c'est ce que vous en dites, en tout cas Serge Martin, qui lui consacrait un enthousiaste essai illustré aux éditions Tarabuste, titré Egerasim Louka, une voix inflammable, non sans avoir coordonné l'excellent numéro que la revue Europe lui avait consacré en 2016. Mika Gargescu, c'est au mur du Centre Georges Pompidou, aux quatre murs, hein, parce que c'est une salle hein, que vous vous en remettez pour exposer jusqu'au 7 janvier. Louka en Héros limite, hein, du nom de son premier recueil paru en France en 1953. Et Héros limite toujours, c'est le titre que vous lui avez emprunté, Alain Berset, pour nommer votre maison d'édition en 1994, année même où Louka se jette dans la Seine à l'âge de 80 ans. Une maison qui balade côté poésie d'abord, mais aussi côté feuilles d'herbe et géographie, mais n'oublie pas son attache première, en publiant notamment avec les éditions Corti en 2001, un double CD de ce qu'il appelait des récitals, parmi lesquels on compte forcément ce poème-ci.
Passionnément. Passionnez-moi.
passe, de passi, de passi, graphi, graphifi, graphifi, de fi, fifi, fena, fenakiki, fenakisti, coco, fenakisti, cop, fifi, fofo, fifi, photo, dodo, dominé, do, photo, mimé, fifi, photo, micrographie, vos goûts.
Oui, évidemment, c'est difficile à couper. Un extrait de Passionnément, hein, comment un mot déroule hein, tout un vocabulaire, sans doute le plus célèbre hein, des poèmes de Gerasim Louka, que vous avez demandé à entendre, Alain Berset, extrait de Gerasim Louka par Gerasim Louka, hein, paru en 2001 en coédition Héros Limite et José Corti, un poème écrit en 47, en français bien sûr, alors que le poète est encore à Bucarest pour 2 ans, un poème presque, si j'osais, tube, hein, et c'est sans doute la raison pour laquelle vous n'avez pas demandé à l'entendre, Serge Martin, et pourtant, que marque ce que vous appelez cet essai-poème dans son parcours?
Bon, c'est un essai extrêmement important. Je n'ai pas demandé à l'entendre, bien sûr, c'était pour faire entendre d'autres poèmes de Gerasim Louka, mais il est fondateur, et c'est normal qu'il soit réentendu sans cesse, parce qu'il a une dynamique quasiment chorégraphique, on pourrait même dire aussi cinématographique. Il y a une référence à Baudelaire avec le phénakistiscope. Et Louka lui-même, d'ailleurs, dans son poème, parle de poux chorégraphique. Hein. Donc, c'est un travail de la saturation vocale qui me semble assez extraordinaire, inédit d'une certaine façon. D'autant plus que ce poème, quand même, il faut le rappeler, est écrit après la Deuxième Guerre. Donc au moment où personne ne sait quoi dire, d'une certaine façon, on n'a plus rien à dire. Et là, par cette saturation vocale, il arrive à défaire et refaire, d'une certaine façon, tout ce qui s'est effondré. C'est une traversée absolument merveilleuse où de l'amour au politique en passant presque par la situation mondiale, parce que si on regarde tous les détails, tout y passe et tout tient.
Tout tient et tout y passe et tout passe, ou en tout cas finit par passer. Qui est Louka en 1947, Mika Gargescu?
En 1947, Louka est déjà apatride. Il est encore à Bucarest, dans une situation de dénuement total. Il vit 2 ans d'effervescence expographique, d'effervescence éditoriale à côté du groupe surréaliste que je préférerais de nommer de Bucarest. Il y a des controverses sur la manière de nommer le surréalisme dit roumain. Le groupe surréaliste de Bucarest est constitué de cinq créatures qui arrivent à sortir de la Seconde Guerre mondiale tout en étant tous des étrangers juifs.
On va revenir sur ce terme d'étrangers juifs, bien sûr.
On va y revenir. En 1947, Gerasim Louka souhaite ardemment quitter Bucarest. Et c'est le changement de régime. Bucarest entrera en sa période soviétique et Gerasim Louka passera une longue traversée des limbes jusqu'en 1950 quand il réussira à quitter Bucarest, se diriger vers l'Israël.
Et qui était ensuite, la seule possibilité hein, de quitter le pays.
Qui était la seule possibilité de quitter le pays en 1950 et il par des nombreuses péripéties, arrivera en France en 1952. Donc en 1947, l'aventure du surréalisme bucarestois se clôt en beauté, en grandeur presque, avec la présence du texte Le Sable Nocturne dans le catalogue et dans le livre édité par la Galerie Macht à la suite de l'exposition du surréalisme international.
Alain Berset, c'est par ce poème-là que vous êtes entré dans la langue, ou dans la voix, ou dans le corps, je ne sais pas comment le dire, de Gerasim Louka.
Oui, il y a un lien avec la ville de Genève, parce que ce poème a été édité sur un flexi-disque, enfin sur un espèce de petit 45 tours transparent, par un éditeur qui avait aussi une galerie qui s'appelle Claude Givaudan. Et c'est vrai que c'était une manière pour Gerasim Louka sans doute de sortir du livre, de publier tout en de la poésie, tout en sortant d'espèces de tyrannie de l'édition habituelle.
Alors c'est à lui, entre autres, hein, ce poème-là, qu'on doit ce diagnostic que vous discutez abondamment dans votre essai, Serge Martin, celui du poète bègue, hein, qui est aussi une identité qui lui colle à la peau d'une certaine manière, repris notamment par Dominique Calla, hein, qui lui offre sa première étude monographique, et puis établie aussi par Deleuze. Un diagnostic par lequel vous semblez à la fois tenté et un peu agacé. Un peu des deux, on ne sait pas trop. Comment est-ce qu'il faut l'entendre, ce bégaiement, comme une hésitation, comme un empêchement, ou au contraire un jeu de relance, de répétition et de mouvement permanent?
Je suis un peu agacé par cette réduction de Gerasim Luka à ce qu'on pourrait appeler un procédé littéraire, alors que, d'une part, l'œuvre de Gerasim Luka est beaucoup plus ouverte, large, procède à de nombreuses expériences, enfin, tout au long de son activité d'écriture. Bon, si on reprend ce poème, je pense que, effectivement, on peut métaphoriser le procédé de rimes pulsatrices, comme ça, consonantiques essentiellement. D'ailleurs, c'est une très très belle tradition poétique, très forte, que Luka a renforcée d'une manière assez extraordinaire, qui remonte d'ailleurs à des gens comme Charles Péguy. Hein. C'est Charles Penquin qui, dans la revue Europe, justement, a titré « Pas pathologisé ». Donc, il ne faut pas réduire l'expérience d'écriture de Luka et de diction de Luka à un procédé qui serait le bégaiement. Par ailleurs, je pense qu'il y a une réponse aussi par ce bégaiement, bien sûr, qui est là. Chez Deleuze, c'est quand même très métaphorique, hein, il faut regarder de près. Mais c'est une réponse aussi au bégaiement de l'époque, c'est-à-dire au bégaiement de l'histoire. Et je pense que Luka a été confronté à des tragédies historiques jusqu'à la fin de sa vie, d'une certaine façon, mais nous y sommes tous. Et je pense que c'est une forme de réponse, mais par un surdire, c'est-à-dire qu'il essaye, il fait exploser les mots, il fait exploser la diction, et il fait entendre ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans un peut-être un peu, moi je rattache beaucoup ça à l'expérience enfantine des comptines. Je sais pas pourquoi, je voudrais rappeler, parce que c'est une expérience en fait que tout le monde partage, et je pense qu'il faut pas faire de l'expérience de Luka une expérience comme ça exceptionnelle, enfin, elle est extraordinaire, mais elle nous ramène à un ordinaire du langage qu'il a su à une époque où les poètes inventaient plutôt un immense silence métaphysique, etc. Bien lui, il a inventé un criétaire, hein, c'est un de ses titres, et donc une espèce d'association impossible et pourtant que chacun entend à travers ce qu'on va bien appeler un bégaiement.
Mika Gargascu.
Quelque part, Serge, je vous rejoins complètement. Je pense qu'il faut revaloriser cette idée de balbutiement, de bégaiement, et la connecter aussi à un processus qui est un processus que vous connaissez parfaitement, qui est la constitution d'une langue, un processus linguistique qui passe par ces étapes de tâtonnement, de bégaiement, de test de langage. Donc je trouve que passionnément, c'est un test linguistique formidable qui rejoint les plus audacieuses théories de la linguistique contemporaine et les modes de formation du langage. Quand on voit comment le langage se forme à travers passionnément, c'est époustouflant de voir quelles sont toutes les combinaisons, les permutations de mots. Donc, et de sortir sans doute passionnément d'une logique purement stylistique de la figure de diction. Et que ces tests, il les fait à la fois en français directement et en roumain. Il existe un précédent strictement contemporain de passionnément qui s'appelle Niciodată Destul, en roumain, jamais assez en français, où ces tests de langage sont très visibles par des assonances, allitérations, homographies, bien sûr, donc dans le registre stylistique, mais aussi dans la véhémence des mots qu'il arrive à former par cette virulence du langage.
Il y a une dimension énergétique extrêmement importante qui va jusqu'à, je pense qu'il y a une recherche du vertige du discours, quoi. Il y en a qui pourraient aller jusqu'à dire que c'est une dimension chamanique, enfin bon, mais ce passionnément, c'est effectivement une espèce de fuite en avant, enfin assez à la fois terrible et jubilatoire, où toute l'énergie d'une danse
j'insiste beaucoup sur cette dimension dansée, chorégraphique, se développe jusqu'à une formule, voilà, la plus courue, d'une certaine façon. Mais il l'a totalement refaite entre-temps, en passant par, je dirais, par une association puissante, là, entre la dimension érotique et la dimension politique. C'est assez, assez merveilleux, quoi.
D'où, sans doute, son actualité dans les années 60 et sa proximité avec les poètes sonores, avec les concrétistes du langage, d'où son actualité aujourd'hui dans toutes les reprises du slam, du rap et leur requalification poétique, si vous voulez.
Alors, dansante, évidemment, pas seulement dansante, peut-être même musicale. Alors, on va revenir aussi sur le terme de récital, évidemment, hein, qu'il utilisait pour dire, pour proférer ses poèmes. Chantante, donc, éventuellement, ou en tout cas mélodique, comme le montre une composition du musicien Christophe Chassol dans un récent album. Ce qu'on entend, c'est l'introduction, hein, donc, de ce titre de Christophe Chassol qui s'appelle Negraka. Et donc après, si on poursuit l'introduction, on entend évidemment la voix de Gerasim Louka. C'est un extrait de l'album X Piano. De quoi parle-t-on ou de quoi parle Gerasim Louka au fond lorsqu'il parle de récital, lorsqu'il choisit le terme de récital plutôt que celui de lecture ou de performance? Et on sait, Dieu sait que Gerasim Louka était précis.
Ah, il y a un très beau titre de Louka, c'est le théâtre de bouche. Donc, je pense qu'il y a cette invention. Je pense qu'il y a une théâtralité vocale sans scène. D'ailleurs, le très beau film de Raoul Sanglard, enfin pour la télévision, dans ce cube blanc, enfin sur fond blanc, où on a l'impression que Louka est comme une lettre qui danse sur un tableau blanc.
Là. En costume noir.
Costume noir.
Livre à la main.
Livre à la main. Fait vraiment penser à cette invention d'une théâtralité où il n'y a plus de scène, plus de décor, et où tout le décor est entièrement vocal. C'est la voix elle-même qui s'ouvre comme une grande rime pulsatrice qui va se déployer, se rejouer sans cesse.
Alors pour en finir avec passionnément, c'est promis, après on passe à autre chose, mais ça me permet de revenir à cette date de 47, hein, Mika Gărgescu, hein, vous dites donc qu'il signerait la fin glorieuse du groupe de Bucarest. Et sur cette question du surréalisme, Serge Martin, alors vous prenez bien soin dans votre essai d'essayer de décorseter un peu toutes les cases dans lesquelles on a pu ranger Gerasim Louka, hein, vous vous battez même beaucoup contre elle. Sur ce lien justement au surréalisme, alors vous dites à la fois que Gerasim Louka est tout contre le surréalisme et en même temps vous émettez des doutes aussi sur cette lecture de Gerasim Louka comme un post-surréaliste.
Je pense qu'il est parti aussi de Dada, faut pas l'oublier. Il est arrivé.
Mais dans les années 30, hein, toutes les revues post-Dada, y compris en Roumanie.
Il est arrivé, ce que Mika rappelait, à la poésie sonore. Enfin, il a été rattaché, à ces trois mouvements. Je dirais, à chaque fois, il s'en échappe. Enfin, à chaque fois, il les déborde, ou il s'en échappe. Bon, concernant le surréalisme, je dirais que il a plutôt inventé un contre-surréalisme, alors un tout contre-surréalisme, hein, donc parce que il a évité surtout ce qui s'est passé à partir des années 50, hein, ce qu'on peut appeler l'emprise de, moi j'appelle ça des mystifications culturelles, des espèces de soumissions politiques. Et il a totalement évité ça, en particulier du côté du trop plein de métaphores, d'émotions, d'éléments, enfin etc. Et il a évité que les révoltes logiques se détournent de leur utopie première. Le travail de Luca, à chaque texte, à chaque nouveau texte, et à chaque fois c'est un renouvellement complet d'une certaine façon de son écriture, c'est à chaque fois un travail du recommencement perpétuel. C'est pour ça que, même revenons passionnément, ça commence par papa, c'est-à-dire par un travail du négatif. Et c'est extrêmement important. À chaque fois, il recommence. Et c'est pour ça que c'est pas si facile que ça, effectivement, de lire Luca et qu'on prend les chemins les plus faciles, les plus rapides. Parce que ça demande, même au lecteur, de tout recommencer à chaque fois. Et je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas l'assimiler très facilement à la notion de récital, de poésie sonore, de post-surréalisme, de surréalisme renouvelé, etc. C'est impossible. Il est quasiment irrécupérable. Enfin, bon, c'est comme tous les grands, quoi. Il a inventé Luca. Tout est Luca.
Oui. Qu'est-ce qui ferait finalement, au fond, la spécificité de ce surréalisme? Alors, donc, on ne parlera pas de surréalisme roumain, mais de ce groupe surréaliste de Bucarest, qui est malgré tout assez fidèle quand même à la maison mère parisienne, hein, oui. Tout en lui assurant une certaine spécificité.
Elle est assez fidèle, oui. Elle est assez fidèle par le désir de se rapprocher de la maison mère, mais qui, la maison mère est assez rétive, hein, de l'accueillir tout de suite. Le surréalisme de Bucarest, enfin le membre du groupe, Gerasim Luca, je les répète ici, Gelu Naum, Dolphy Trost, Virgil Teodorescu et Paul Poun, adoptent les codes du surréalisme. Et ils adoptent les codes d'un surréalisme de deuxième génération, j'ai envie de dire. Le surréalisme occulte, ils lisent tous L'Amour Fou, Nadja et Arcane 17, et ils réinterprètent, ils reprennent toutes les clés de lecture. La médiumnité, l'occultisme, tout ça, c'est injecté dans la littérature du groupe surréaliste de Bucarest. Mais c'est teinté aussi par des envies de rattachement sociopolitique. Il est une raison commune. Gerasim Luca, dans les années 30, il est proche de l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires. Il écrit dans les journaux et dans les magazines de gauche prolétaire. Et il est proche de ce milieu-là. Il arrive à Paris en 1938 dans ce contexte politisé, très politisé. Il rencontre Bronner avec Jacques Herold. Donc il y a ce passé-là, toute la sémantique dialectique qui est empreinte des lectures très particulières de Hegel ou de Lénine, le relatif absolu qui devient un relatif absolu très idiosyncrasique dans la dialectique de la dialectique, donc les textes manifestes du surréalisme de Bucarest, doivent être compris aussi avec cet horizon de lecture, d'horizon de lecture philosophique, politique, que les membres du groupe lisent de manière fervente. Et le parcours de certains membres du surréaliste de Bucarest, après la Seconde Guerre mondiale, après le changement du visage du régime politique de Bucarest, en dit long aussi des choix qui ont été faits par la suite. Luca s'en détache tout en gardant comme trame de travail, comme méthode de pensée, ce ressort de la dialectique de la dialectique. Ça peut sembler très hermétique, entendu comme tel, mais le rapport à la négation, le rapport à la transformation de la réalité par le désir sont vraiment les axes structurants de son discours, de sa pensée. Et je pense que c'est là où Deleuze a vu très très juste. Il a capté cette conception non oedipienne, transformatrice des textes de Gerasim Luca. Il l'a adapté à des situations de pensée contemporaines, dans le capitalisme et schizophrénie, dans l'anti-Oedipus, etc.
Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose hein, quand vous faisiez référence à Deleuze avec l'anti-Oedipe et le oui. Non-Oedipe de Gerasim Luca, même oui. Si évidemment on y voit un lien. Hein. Faut rappeler qu'il a écrit une sorte de manifeste non-oedipien en roumain. Donc là, c'était vraiment plus dans les jeunes années. Qu'est-ce qu'il s'agissait de mettre à mal pour lui? Est-ce que c'était en finir d'abord avec, au fond, l'ordre héréditaire? Et on verra d'ailleurs quelles conséquences ça peut avoir après sur la langue, à proprement parler. Serge Martin.
Oui, on peut dire que le négatif chez Luca, c'est pas le revers du positif. Donc, il s'agit pas de proposer une nouvelle modélisation, un nouveau modèle. Il connaissait très bien ça politiquement, enfin pour le moins dans ces conditions. Et même cette tentation, elle existait chez les surréalistes. Quand il dit tout doit être réinventé dans l'inventeur de l'amour, il ajoute tout de suite il n'y a plus rien au monde. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a une utopie du commencement, du recommencement. Il est seulement dans une énergie vocale qui va créer des liens nouveaux, neufs, inouïs d'une certaine façon. Parce que, je crois, il en a trop vu, soit politiquement, soit, je dirais, socialement, hein, dans sa condition d'étrange juif. Et il n'y a plus que cette dimension intempestive qui peut faire résonance. C'est ça qui est assez beau et qui est d'une inactualité incroyable, qui peut faire résonance dans un funambulisme poétique assez radieux, hein, je dirais. C'est pour cela que ça marche, quoi, auprès de nombreux publics qui se renouvellent sans cesse, même si on peut se tromper sur ses intentions, sur y compris ses modes de diction. C'est pas grave, il y a pas de vérité de Luca d'une certaine façon, parce qu'il y a simplement une énergie de sa réénonciation. Il appelle chacun à réénoncer son énergie de vivre, ses retours de vie. Et ça, c'est fondamental pour cette expérience.
Pardon de prendre quelques raccourcis, ça ne sera sans doute pas le dernier, mais sur cette position non oedipienne, est-ce qu'on peut le mettre en lien avec son changement de nom, par exemple, dont on n'a pas encore parlé, puisqu'il se choisit ce prénom, donc Garasim, et ce nom, Garasim Luca. Comment ce nom s'est-il construit?
Bon, à l'origine, il y a le hasard objectif. Enfin bon, c'est bien surréaliste. Ensuite, on sait très bien que d'un nom choisi, on va faire ce qu'on va en faire. Enfin, il va devenir ce qu'on va en faire. Et Luca a absolument réussi, quoi. C'est-à-dire que il y a pas d'autre Garasim Luca que son œuvre. Enfin, que son œuvre qui continue. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Il y a tout un débat sur l'accent aigu du premier E du Garasim, jusqu'à partir de quelle date il l'utilise,
à partir de quelle date il l'utilise.
Je ne vais pas vous le dire, je me suis efforcée de mettre partout des accents dans sa période française, de garder le Garasim à la roumaine, dans la période roumaine, donc être assez cohérent avec la chronologie de l'emploi de l'accent aigu. Mais on est tout de suite avec ce nom et cet égarement. C'est un égarement et c'est lui qui le dit. C'est aussi toute l'histoire du jeu qui parle, pour qui parle, qui se pose. Et du jeu poétique.
Ouais.
Serge Martin.
Je pense qu'il y a un refus de l'assignation par la dénomination familiale, juive, bucarestoise, enfin roumaine, etc. et ainsi de suite. Même poète, il refuse poète, puisque il parle plus que de poésie, il parle d'ontophonie. Donc il y a vraiment un travail constant chez Luca, y compris jusque dans les relations sociales, d'une certaine façon, pour refuser toute carte d'identité. Sa volonté de rester apatride, il aurait pu obtenir la nationalité. Enfin,
il a fini par l'obtenir.
Il a fini, mais pour des... Bon, enfin, c'est compliqué.
Il a fini par l'obtenir, non pas parce qu'il la souhaitait. Il a fini par devoir la demander.
Voilà. D'où l'importance, effectivement, de cette dénomination qu'il s'est donnée dans un petit texte d'étrange juif, parce que c'est très fort. Ça joue à la fois, enfin, je pense, ça fait à la fois référence, peut-être pas explicite, mais à « Tous les poètes sont des youpins » de Marina Tsvetaeva, et donc à ce rejet de tous les discours qui défendent une certaine toutes les assignations sociales, etc. Et puis d'un autre côté, le refus aussi de l'assignation juive elle-même, enfin puisque ce qui compte, c'est l'étrangeté, la non-familiarité. Et donc, c'est cette interrogation constante pour que la rencontre soit à chaque fois neuve, tout simplement, et non pas déjà jouée, déjà faite.
Est-ce que le passage ou le choix de la langue française relèverait au fond un peu de la même opération que celle que vous décrivez, Serge Martin ?
Non, c'est compliqué, je pense. Là, il y a la situation de la Roumanie, parce que bon, Luca pratiquait d'autres langues.
Parlait l'allemand, le yiddish, le roumain et le français.
Oui, je pense un peu le russe aussi. Bon, dès sa jeunesse, son enfance, je pense le français a un rôle extrêmement important, comme pour, je dirais, une grande partie de l'intelligentsia roumaine de cette période. C'est extrêmement important. Il y a une utopie linguistique aussi derrière ce français. Les avant-gardes auxquelles il s'est rattaché, qui l'ont intéressé, qu'il a lu, étaient principalement françaises. Je pense qu'il connaissait aussi les avant-gardes allemandes, plus proches encore, polonaises, tchèques, etc. Mais l'importance, sa voie s'est trouvée d'abord à Bucarest, dans un milieu qui parlait bien français.
Parce qu'il écrit en français déjà à Bucarest.
Oui, assez tôt. Oui. Alors, après, Paris était accueillant. Paris était quand même, au lendemain de la guerre, un lieu d'accueil pour beaucoup d'intellectuels du monde entier. Hein, voilà. Je pense que la raison forte est ça. Puis je pense qu'il a vu que son écriture se déployait très facilement, très directement. J'insisterai quand même sur, d'un point de vue linguistique, sur le consonantisme français. En faisant référence à Claudel, par exemple, c'est pas un hasard si la question du théâtre chez Luca est assez importante. Quand il dit des crimes sans initiales, hein, on voit bien que chez lui, la rime commence par le début, par « k ». Crime, rime, crime sans initiale. Et ça c'est quand même une grande leçon claudélienne, Peggy, etc.
Alors, puisque vous parlez de refus d'assignation, on écoute à nouveau la voix de Gerasim Luca.
Autodétermination. La manière de maman de s'asseoir, sa manie de s'asseoir sans moi, sa manie de soi, sa manière de wa, le soir, de s'asseoir le soir sans moi, la manie de la manière chez maman, la manie de soi, le soir là, de s'asseoir là, de s'asseoir oui, de s'asseoir non, le soir là, là où la manière de s'asseoir chez soi sans moi, s'asseoir à la manière de, à la manière d'une oie en soi, elle est la soie en soi, oui, oui et non. La manie et la manière de maman de s'asseoir chez soi sans moi. S'asseoir chez soi, chérie. Chez soi et toute seule, chérie. Le soir à la manière d'un cheval. S'asseoir à la manière d'un cheval et d'un loup, d'un châle loup. Oh, chérie, oh, ma chaloupe de soi. Oh, oui, s'asseoir, non. S'asseoir le soir et toute seule chez soi. Oh, non, non, manière de s'asseoir sans moi chez soi, sans moi, sans chez... Oh chérie, c'est une manière chérie, une manie de la manière de, manière de s'asseoir chez soi sans chaise. S'asseoir sans chaise, c'est ça, c'est une manière de s'asseoir sans chaise.
Un extrait d'Autodétermination et Serge Martin chuchote qu'il le connaît par cœur et qui s'achève comme suit, une manière de s'asseoir sans chaise, hein, qui pour vous, Serge Martin, est sans doute un vers crucial. Hein, qu'est-ce que cette opération-là, cette image-là, dirait au fond du processus d'écriture même, ou la nature même de l'écriture de Luca ?
Alors le titre est très fort, hein, Autodétermination, bien sûr. Et oui, il y a une invention de la chaise chez Luca, je trouve, parce qu'il attache une grande importance aux objets, comme les surréalistes et alors ce groupe surréaliste de Bucarest. Et cette invention de la chaise sur laquelle qui n'existe pas, quoi, cette chaise absente, parce que Luca invente. Oui, je disais un théâtre de bouche sans scène, et donc une manière de s'asseoir. Alors, s'asseoir ici a peut-être aussi une connotation érotique, aussi enfin, je pense qu'il y a une référence forte à Rimbaud, hein, aux assis, hein, évidemment, et donc la possibilité, voilà, d'une individuation, hein, puisque l'autodétermination, d'une individuation, mais qui devient corps, entièrement corps, et donc l'invention d'un mode d'assise sans chaise. Et ça, dans nos sociétés, la chaise, c'est très important. Nous sommes dessus là en ce moment. Il faut se tenir, tenir son langage en perdant toute assise. Et ça, c'est un défi absolument remarquable. Il faut rappeler quand même que dans ce texte, tout commence quand même par la manière de maman. Et donc, il y a un rapport, effectivement, un travail non oedipien dans ce texte qui est terrible, et où il faut s'asseoir oui, s'asseoir non, hein, s'asseoir chez soi, et il invente un chez soi sans chez. Vous voyez, tout est ce travail comme ça du creusement, de l'invention. Alors, on peut pas dire que ce soit un vide à la place de quelque chose. C'est d'une certaine façon, il défait les dichotomies traditionnelles du vide et du plein, de la chaise et du sans chaise, puisqu'il est assis sans chaise. Donc
c'est un équilibre, voilà. Ou un déséquilibre. Hein.
Un déséquilibre.
Alors, puisqu'on parle d'assises, de chaise, de corps, de prendre corps, alors on écoute Un pas de côté. La voix d'Arthur H. Et encore là, on s'arrête juste avant que ça chante vraiment, mais ça va chanter, donc qui est une mise en voix, mise en musique d'un poème de Gerasim Luca qui s'appelle Prendre corps. Que reste-t-il de Luca au fond quand on entend ça? Est-ce que ces poèmes ont besoin ou auraient besoin de son corps? Parce que c'est une question qui se pose aussi dans l'exposition au Centre Georges Pompidou, Mika Gargescu.
Ah, je pense que c'était la fibre qu'on voulait injecter dans cette exposition au Centre Pompidou. De prendre corps, le corps de Luca était essentiel. C'est ce qui structure l'exposition, je pense. Bien sûr, il y a d'autres colonnes vertébrales, les colonnes documentaires, les colonnes des objets de cette pratique artistique très peu connue de Gerasim Luca, les cubomanies, les albums photographiques, tout le travail qui est un travail presque linguistique qu'il fait sur les planches trouvées.
Alors les cubomanies, peut-être juste une toute petite parenthèse, hein, ce sont ces œuvres, une pratique en fait, hein, qu'il a poursuivi quasiment toute sa vie, toute sa vie d'artiste en tout cas, qui consistait à découper des détails d'images, alors d'abord des images plutôt des images prises dans la presse, puis après des images de l'imagerie de l'histoire de l'art, et puis de les réajuster.
Tout à fait. C'est un principe de... qui au départ c'est un principe dadaïste. La définition de la cubomanie qui nie, est presque identique de la manière de construire un poème dadaïste. Donc c'est très proche comme mécanisme de construction de la cubomanie. Découper une reproduction d'art ou une photographie et réagencer là pour avoir un nouveau poème, pour avoir une nouvelle vision. Les cubomanies vont un pas plus loin peut-être que les poèmes dadaïstes. Ils réactivent les désirs. Ils sont des supports de réactivation du désir. Si on revient à Arthur Ashe et à Gerasim Luka, si on fait ces allers-retours, je dirais que, comme Gerasim Luka le disait, ce magnétisme érotique qui est dans le prendre corps, qui est dans certaines cubomanies, le support insurrectionnel le plus valable qui reste de cette poésie du désir, de cette surérotisation du monde, qui a aussi un support très politique. Si vous entrez dans l'exposition et vous verrez à côté de ce magnifique vidéo, film conçu avec la complicité de Raoul Sangla en 88, vous verrez trois petites phrases qui étaient inscrites en 1967 sur le grand mural à La Havane, le mural révolutionnaire qui n'était pas sans déplaire aux révolutionnaires proches du Che. La poésie sans langue, la révolution sans personne et l'amour sans fin. C'est peut-être cette qualité insurrectionnelle de Luka qu'on a souhaité mettre en énergie dans cet espace d'exposition.
Je crois qu'il y a une belle force dans l'exposition
Serge Martin.
Entre le grand écran de l'émission de Raoul Sangla, donc où on voit Luka réciter ses poèmes, et puis les tout petits cahiers, voire même les cubomanies qui ne sont pas très grandes, qui demandent une attention infime aux détails, jusqu'aux petits points, aux toutes petites phrases collées dans des albums photos un peu surannées. C'est très très étonnant parce qu'il y a ce va-et-vient extrêmement précis, parce que Luka, s'il prend corps, on le voit évidemment immédiatement à la vision de son récital filmé par Sangla, mais on le voit aussi dans son attention à la typographie, à la page. C'est un très grand malarméen. Il sait très précisément ce qu'est une page, il sait où disposer les mots, il les écrit, il fait les mises en page de ses livres d'une manière magnifique. Puis après, ça va jusqu'à le prendre corps prosodique, dont on a parlé évidemment avec passionnément et d'autres poètes.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Vous faisiez allusion, Serge Martin, à l'importance de la typographie, de la mise en espace, de la mise en page lors d'éditions, parce qu'on a surtout parlé effectivement de Gerasim Luka sur scène, ou Gerasim Luka enregistrant, ou récitant, ou disant. Mais c'est aussi une affaire de page, c'est aussi une affaire de livre. Alors je ne sais pas si Alain Berset, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez emprunter le mot, le terme, l'expression, le titre, Hérolimite, qui est donc un poème de Gerasim Luka, enfin un recueil de poèmes de Gerasim Luka, pour nommer votre maison d'édition. Et c'était en 94, c'est-à-dire à la mort de Luka. Et j'imagine que ça n'était pas une coïncidence.
Non, en effet, c'est pas une coïncidence. Je pense qu'il y avait toute une série de choses qui ont fait qu'on s'est arrêté sur ce nom Hérolimite. Effectivement, les livres du Soleil Noir, certainement, les choses qui circulaient à ce moment-là, mais qui n'étaient pas si faciles à trouver, indépendamment des livres de Corti qui réapparaissaient. Mais pour moi, il était plutôt lié, Gerasim Luka était plutôt lié au mouvement de la poésie sonore. je dirais principalement. Et ce n'est qu'après l'avoir entendu que je l'ai lu, je dirais ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose qui était tout à fait... le moment où on a dû trouver un nom a coïncidé au mois de février avec sa disparition. Et puis c'était une manière de lui rendre hommage. C'était une chose aussi, je dirais, qui était... Il y a une espèce de mystère derrière ce héros limite. Et puis ce fait que, à la fois quelque chose de magique, d'inconnu, de mystérieux. Et c'était cette idée-là peut-être qui a conduit à ça. On s'est arrêté là-dessus. Je me suis arrêté là-dessus à cause de ça. C'était un nom qu'on porterait peut-être pas, mais qui nous conduirait ou qui me conduirait. Je pense que c'est ça qui m'a décidé. Puis peut-être une chose encore que j'ai appris bien plus tard, c'est que phonétiquement, Hiérolimite, Hiérosolimite, c'est l'habitant de Jérusalem. Voilà, c'est une chose qui s'ajoutait à ça, mais enfin, appris plus tardivement.
Il y a un intérêt de Luca pour des références scientifiques de l'époque assez nombreuses. Hein, alors, héros zéro, hein, il joue forcément sur donc le zéro limite en calcul infinitésimal. Enfin bon, mais parce que aussi l'époque est très scientiste et donc les grandes découvertes scientifiques post-Einstein, la bombe atomique, hein, ça a été très important, enfin, découverte scientifique est terrible. Je pense que Luca intègre tout, enfin, y compris toutes ses lectures, parce qu'il avait des lectures, bon, philosophiques, on l'a dit, importantes, mais scientifiques aussi, bon, poétiques, les journaux, la presse, hein, les cubomanies ont commencé par la presse.
Psychanalyse aussi.
Puis de la psychanalyse, bien sûr. Oui. Voilà, peut-être c'est une façon de refaire tous les discours. C'est-à-dire pas de se limiter à la poésie. Quoi. C'est pas la poésie, ça ne lui suffit pas. C'est pour ça qu'il invente cette notion d'ontophonie. Et les ontophonies, il parle de résonance d'être. Hein. Il traduit plus ou moins ça comme ça. Il dit que son travail vise une résonance d'être. Hein. C'est dans Je moralise qui est un très très beau texte, parce que voilà ce qui est merveilleux.
Je moralise
Luca,
M'.
M'. Hein. Je moralise M'. Mais on entend aussi je moralise sans apostrophe. Il y a un rapport entre l'éthique et cette diction, ce corps langage. Et en même temps, il refait justement, enfin, il défait toute approche trop rapide avec une espèce de moralisation comme ça de la poésie, mais aussi il défait toutes les discursivités installées, institutionnelles, dans cette grande oralisation, mais avec un paradoxe, en tenant y compris la typographie, la page, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se défait du livre. Dans le film de Sangla, on le voit toujours avec le livre, hein, le livre ouvert, il y a
tenu dans une seule main en général, avec un bras qui lâche. Enfin, dans deux mains, non, pardon, deux mains. Parfois ça dépend, mais souvent le bras qui, l'autre bras libre.
Le livre est toujours là, très ouvert.
Le livre est là.
Est-ce que je rajouterais peut-être rapidement, c'est cette non-assignation du nom, je pense qu'elle est très importante. Elle revient, bien sûr, dans Héros limite, elle revient aussi sur cette autre figure qui est cruciale, le supérieur inconnu. Le supérieur inconnu qui ponctue d'ailleurs les pages d'Apostrophe Apocalypse dans ce rapport au langage, à l'indécidabilité de la position du langage et du position du nom. C'est sans doute malarméen, c'est sans doute très hermétique, mais c'est crucial, je pense, pour comprendre ce nom de Gerasim Luca.
Alors, je vais revenir au héros limite qui nous occupe, qui est celui d'Alain Berset, qui sont donc ces éditions installées à Genève depuis 1994, que vous associez dans un premier temps effectivement à la poésie sonore et probablement aussi à une scène particulière dans les années 90 à Genève. Quand vous démarrez en libraire, mais pas seulement, vous êtes aussi un acteur actif, j'allais dire, de la scène poétique à ce moment-là. De quoi est-elle faite dans les années 90, cette scène de la poésie, mention sonore, à Genève ou en tout cas en Suisse romande?
Le principal était de s'est concentré sur un festival qui s'appelle La Bâtie, qui avait une série de soirées consacrées à la poésie sonore, et effectivement, grâce à Vincent Barrès notamment, toute une série de poètes qui faisaient partie du mouvement à l'époque sont venus, ont passé par Genève. Que ce soit Bernard Hetzig, Emmett Williams, enfin Gomringer et beaucoup d'autres. Et puis c'est vrai que
Tarkos même. Après,
Tarkos aussi, évidemment Gerasim Luka. Je pense que tout ça a duré plus de 10-15 ans. Voilà, je pense que tous les noms, on va dire, qui ont été actifs. Michel Métaille, enfin, j'en passe, on passait par Genève. Voilà, donc ça, c'était une chose importante. C'est des textes ou une poésie qu'on n'avait pas nécessairement, à laquelle on n'avait pas accès en librairie, comme j'étais libraire à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était un point de départ pour la création de la maison d'édition. Faire des livres qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas traduits, ou les rééditer, les rendre à nouveau disponibles.
Ou combler un manque, en tout cas. Et parmi ces manques, alors c'est curieux par rapport à ce que vous venez de dire, Alain Berset, vous commencez par, non pas par un poète sonore, mais par l'artiste mexicain Ulysse Carrión. En quoi cette figure-là faisait-elle figure de manifeste pour vous, c'est-à-dire vraiment de point d'impulsion de ce que la maison d'édition voulait être?
Voilà, alors, Ulysse Carrión est un artiste mexicain qui a vécu une bonne partie de sa vie à Amsterdam. Et il a ouvert une galerie-librairie qui était consacrée uniquement aux livres d'artistes. Et il était associé aux artistes conceptuels dans la création de ce qu'on a appelé le livre d'artiste, ou littéralement œuvre-livre. Et il a écrit toute une série de textes qui ont été édités d'ailleurs, quant au livre, en reprenant le titre de Mallarmé, qui sont un journal à la fois d'un artiste qui se préoccupe du livre avant tout, et aussi une espèce de théorie, on va dire, du livre d'artiste. Et puis c'est vrai que c'était pour moi fondateur, parce que c'était tout à coup une vision que on n'avait pas du tout en France de l'objet livre, enfin de d'un objet qui n'est pas simplement un sac de mots, qui n'est pas littéralement un réceptacle de phrases ou de paragraphes, mais qui est aussi un espace, une séquence d'instants, enfin, voilà, qui peut se jouer différemment.
Et alors, du coup, cette première publication, alors, il y en a eu plusieurs à la suite, toujours du même artiste, cette première publication, comment est-ce qu'elle rendait compte, justement
Voilà, alors ça m'a permis de... Ce qui n'est pas une chose qu'on fait habituellement, de reprendre des livres d'artistes pas de Gerasim Luka, mais de Ulysse Carrión, qui étaient des choses qu'il avait fait au tampon, de façon très très simple et sommaire, et puis de les réimprimer. Et je trouvais intéressant d'avoir cette démarche, parce que c'est un peu une démarche de copiste en quelque sorte, enfin c'est refaire des objets. C'est intéressant d'un point de vue de l'observation, et puis de façon contradictoire un peu avec des procédés qui appartiendraient plutôt à Fluxus, j'ai monté un atelier typographique. Alors là, qui serait plutôt du côté de Gerasim Luka, on va dire, puisqu'il y a une espèce de traduction dans le surréalisme à la création typographique, on va dire.
Parce que c'est donc là que vous vous installez, hein, enfin que vous installez le premier lieu des éditions Héros Limite. Donc c'est dans un atelier d'imprimerie et de typographie, ce que vous allez garder tout du long et encore maintenant. Autre source, justement, l'inversé, c'est en vous inspirant de Guy Lévy-Manneau, hein, qui est poète, traducteur, typographe, éditeur pour le coup, que vous montez aussi cet atelier. Qu'est-ce qui faisait modèle pour vous chez un homme comme lui?
Alors ce qui a fait modèle, c'est le fait qu'il n'ait pas réalisé de livres, on va dire, bibliophiliques, mais des livres qui étaient des livres de poésie avant tout, ou de prose poétique, extrêmement simples, d'une facture très modeste. Et effectivement, je pense qu'il, dans ce sens-là, il différait de la tradition française, encore une fois, qui a énormément fait des livres ou de poètes et de peintres très emphatiques. Et la modestie de Guy Lévy-Manneau m'a, m'a, m'a toujours beaucoup touché.
Qu'est-ce qu'il en reste dans vos livres, hein, Alain Berset ?
J'espère justement une espèce de transparence. Ça veut dire être le plus immédiat et le plus simple possible pour pouvoir pour qu'un texte puisse atteindre un lecteur. Enfin, je pense que c'est très important ce passage de l'éditeur ou de l'imprimeur, puisque Guy Lévi-Manon avait son propre atelier d'imprimerie.
Alors, à regarder le catalogue qui s'est donc évidemment singulièrement étoffé depuis 1994, donc avec vraiment des moments d'accélération forts dans les années 2000. Je pense donc à ce catalogue, à ses collections, à Feuilles d'herbe, à Géographie notamment, donc à regarder Bouvier, Rilke, Traquel, Novarina, Saint-Gria, Élisée Reclus, le géographe, même son frère Élie aussi, Reznikov, Seferis, Cavafy, la réédition toute fraîche hein, du livre de Job, hein, de Joseph Roth. Il y a dans ce catalogue-là des essais, des rééditions, des traductions, des écrits d'artistes, de la poésie. Est-ce à dire que vous vous méfiez du roman ?
Je me sens pas du tout compétent pour le roman. Alors après, c'est vrai, c'est une chose. Non pas qui m'est étrangère, mais le roman, la littérature, le roman contemporain au sens du terme auquel on l'utilise aujourd'hui, mais pas familier. Mais tout simplement parce que peut-être que je relis peu, ou peut-être que il me semble que c'est encore un autre travail d'éditeur de publier du roman.
Alors justement, vous continuez à dire Alain Berset, je suis éditeur de poésie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que d'éditer, je ne sais pas, Élisée Reclus en éditeur de poésie?
Alors la caractéristique d'Élisée Reclus est qu'il est, il est tout simplement un grand poète. Enfin, qu'il n'y a pas de séparation entre la géographie, la géographie ou le géographe et le poète. Et puis ça, je pense qu'on peut Ramu le disait de façon assez éloquente, je trouve, qu'à partir du moment où un roman est réussi, qu'il devient justement un poème. Et je trouve que c'est assez bien. Dit ou synthétisé quand on lit Joseph Roth, Job, effectivement c'est un poème, c'est pas simplement c'est un poème, c'est une histoire, c'est une chose qui est ample.
Alain Berset, Serge Martin, Mika Gergescu, merci vraiment à tous les trois. C'est la fin de cette émission que je vous laisse terminer entre vous et sans moi. Alors excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci. Oui, l'artisanat promeut la lenteur, et alors on la trouve chez Luca, mais ça peut être aussi la vitesse, mais une vitesse qui n'a rien d'industriel, qui serait une vitesse... je voudrais lire le poème de Luca qui s'appelle « Autre secret du vide et du plein ». À toute vitesse. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le vide rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le vide. Le plein vidé de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le vide. Le vide vidé de son vide, c'est le vide. C'est le plein vide. Le plein vide vidé de son plein vide, de son vide vide rempli et vidé. De son vide, vide, vidé de son plein, en plein vide. Je trouve une performance extraordinaire, philosophique, là, qui défait toutes nos habitudes.
Ne dominez pas vos passions passives. Laissez vos angoisses souples. Toutes les idées décontractées. It gives us hope, it gives us strength, you know, to carry on. Keep fighting till the end, and past the end, you will be strong. Too late to keep the world from dying, it's not too late to spread the love you share. One day, we'll all be there.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Philippe Mercher pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Alain Berset, Serge Martin et Mika Gergescu. Vous trouverez toutes leurs actualités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Olivier Lascar.